Cet épisode d'Auturbain est soutenu par la MCAS, la mutuelle complémentaire des activités sociales de la ville de Paris et de l'assistance publique. Auturbain, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativet et cet épisode est consacré au trajet domicile-travail. Métro, bus, tramway, voiture, diesel ou non, on va parler de ces déplacements quotidiens qui, pour certains salariés, peuvent s'apparenter à un parcours du combattant. Arriver à son poste après avoir marché 15 minutes pour prendre un bus, afin de rejoindre la gare de RER pour enfin terminer par 10 minutes de marche dans une charmante zone d'activité où le préfabriqué règne en maître, constitue le quotidien de nombreux salariés. On a également la version embouteillage sur périphérique, rocade ou autre bretelle d'autoroute desservant les grandes métropoles. N'oublions pas les zones rurales et périurbaines où, faute de transport collectif, la plupart des trajets se font exclusivement en voiture. Plus ou moins long et complexe, ce trajet peut s'apparenter à un effort, une épreuve quotidienne. Il constitue en effet le premier investissement pour toute personne qui se rend chez son employeur. Bon, ok, après avoir maudit son radio réveil. Temps non reconnu par le droit du travail français, et pourtant à l'origine d'un stress, d'une fatigue mentale et physique, il constitue alors une inégalité invisible et non négligeable. Ce trajet nécessite une organisation familiale au millimètre, qui plus est quand on est parent isolé. Enfin, ce trajet est au cœur des enjeux de transition énergétique et pose la question de la répartition des modes de transport collectif sur l'ensemble des territoires. Pour réfléchir et interroger les trajets domicile-travail, j'ai rencontré Josie, 51 ans, secrétaire médicale qui affronte ses 2h30 de transport par jour avec patience et vigilance. Après sa nuit de travail en tant que chef de chantier, j'ai retrouvé sur une péniche Gilles, 41 ans, qui alterne entre voiture, moto et RER. Enfin, nous entendrons Hélène Nessy, urbaniste, enseignante chercheure à l'université Paris-Nanterre, qui a étudié les pratiques de mobilité en Île-de-France.
Je suis en fait une ancienne aide-soignante reclassée, donc je travaille au standard et à l'accueil depuis 2014.
Donc là, moi j'ai fait le trajet pour venir jusqu'à chez vous, donc disons de chez moi, j'ai mis une bonne heure au total pour arriver jusqu'à chez vous, plus la petite marche en effet quand on sort du RER, et du coup vous, votre quotidien c'est...
Non, ben, j'ai un sommeil qui se coupe à 7h, 8h, donc je me prépare depuis 10h30, pour partir à 11h30 ici, prendre le train à 11h. 29. Je prends toujours 10, 15 minutes, voire 20 minutes à l'avance. J'arrive à midi et demi, 1h moins de quart au travail, si tout va bien. Ouais. Sans difficulté sous le trajet, avec les bus et le train.
Et en l'occurrence, ça se passe plutôt bien?
Pas souvent, puisque dimanche, c'est samedi quand j'ai travaillé, donc le train de 11h44 était annulé. Donc j'ai dû prendre le prochain à midi 14. Donc je suis arrivée vraiment à 1h30 dépassée pile. Et je commence à 1h24, donc voilà quoi. Mais bon, après, comme je suis toujours un petit peu en avance, donc...
Et le soir, du coup, vous partez à quelle heure?
À 21h.
21h.
Je prends le métro, puisqu'avant, je prenais le bus. Mais je prends plus le bus, je prends le métro, parce que les horaires ont changé, vu qu'ils font des travaux. Donc avant, j'avais un train à 21h24, donc ce qui me faisait arriver à 22h ici. Mais il n'y est plus. Maintenant, c'est le train de 21h31. Donc j'arrive ici à 22h30. Donc si tout va bien, j'arrive à 22h30. Et si tout va mal, comme l'autre jour, il y a deux semaines, à minuit. Quand c'est la grève aussi, j'arrive à minuit. Parce qu'il faut descendre à Juvisy, il faut prendre les bus. Donc tout le monde se monte un peu dessus. Donc voilà quoi.
Et il y a du monde justement quand vous faites vos trajets, vous le matin ou le soir?
Oui, peut-être pas forcément tous s'ils sortent travailler, mais oui, il y a du monde.
Vous arrivez à avoir une place assise
ou... Oui, parce que des fois j'arrive souvent avant tout le monde.
C'est votre stratégie
Quand j'arrive, tout le monde n'est pas encore rentré. Et au moment où je rentre, peut-être 5 minutes après, les gens commencent à arriver.
Et là, vous, quand vous faites ces longs trajets, du coup, vous faites quoi?
Je regarde un peu mon téléphone, mais sans plus. Je réfléchis ou je regarde les gens autour, si... On ne sait jamais si quelqu'un tombe pas, ou parce que les gens, ils sont tous dans le train avec le téléphone, mais bon, j'observe en fait. Si quelqu'un est assis trop près de moi, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que plus je me pousse, plus il se colle à moi? Donc oui, ça m'est déjà arrivé, donc je fais très attention. Donc non, je ne lis pas, j'observe les gens pour... Donc toujours une place dans le coin. Si je peux mettre mon sac à côté, comme ça personne ne s'assoit à côté le soir. Je ne peux pas trop le faire à 11h, mais le soir je peux, parce que bon, il y a moins de monde. Mais le matin, non, je ne peux pas faire ça forcément. On fait juste les 1 heure de trajet, 1h30, et puis comme c'est la galère, on est déjà habitué, on patiente.
Ouais.
Avec le temps, peut-être ce sera plus compliqué si demain j'ai une vie vraiment, une vie à deux. Mais bon, après, pour le moment, moi, ça ne me dérange pas. Le seul qui me dérange, c'est quand il y a la grève ou des trucs comme ça. C'est fatigant psychologiquement quand on rentre, on se fait... secouer, coincer, donc ça j'aime pas trop, mais c'est le seul truc. Sinon ça me dérange pas les une heure et demie jusqu'à une heure et demie, je peux prendre.
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'incidents voyageurs ou des problèmes sur la ligne?
Ah oui, depuis que je prends la ligne D, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est toujours, et des fois c'était même, on pensait que je montais tout le temps, hein. Donc maintenant je disais non, pourtant je ramenais toujours un papier et tout, mais ça suffisait pas.
Hein. Ça pouvait poser des problèmes.
Ah
avec,
oui, hein. Au travail ça pouvait poser problème. Hein. Bon, où je travaille à Boca, ça pose pas de problème parce que je le dis, dès que je sais que ça va pas, j'appelle, et puis les filles elles me disent de pas m'inquiéter parce qu'elles sont là, donc elles savent que je vais venir. Mais si c'est plus long, il y a un truc, j'appelle toujours tout le temps, en fait. Et puis bon, j'ai des chefs qui sont peut-être pas comme ceux des autres, ceux d'avant, en fait, qui comprennent aussi. Ils savent que je suis en chemin, ils savent que je suis toujours en avance. Donc si ça m'arrive un jour ou deux de dire que je suis en retard parce qu'il y a pas de train, voilà, ils vont pas se dire ouais mais raconte n'importe quoi. Après c'est vrai que je travaille au standard et à l'accueil, donc l'équipe du matin finit à 2h30, je vais jamais arriver après 2h30, mais il y a toujours quelqu'un qui avec moi aussi, donc même si moi je suis pas arrivée, donc j'ai quelqu'un, mais je veux dire, comme je pars toujours tôt, donc voilà, mais comme c'est une bonne petite ambiance, donc on le monte pas tout le temps en fait. Si j'étais auprès des patients, quand vous avez 20 patients l'après-midi par exemple, vous finissez à 21h30, d'arriver à la gare, il n'y a pas de train, il faut rentrer à des heures pas possibles, c'est fatigant. Puisqu'on est déjà là depuis une heure et demie. Donc, mais non, là, du coup, mes journées, c'est répondre au téléphone, ou d'être à l'accueil, accueillir les gens, renseigner. Donc, du coup,
Quand vous étiez aide-soignante, est-ce que c'était pour vous plus difficile?
Oui, c'était une époque difficile parce que bon, j'étais en pleine séparation, j'avais deux petits-enfants sur les bras, donc...
oui, parce qu'il faut difficile. Gérer les, enfin, oui, les horaires de garde.
Donc du coup, c'est là qu'on se rend compte que quand on travaille, on peut vraiment être malade dans un travail. J'ai fait de la tension, j'ai eu des douleurs au dos, et après un jour, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, peut-être en faisant un patient, je me suis cassé l'épaule sans m'en rendre compte en fait. Et c'est deux jours après, j'étais de repos, et le lundi, je ne pouvais pas m'habiller.
Et depuis, vous avez été reclassée?
Oui, du coup, j'étais deux ans d'arrêt.
Et ça, vous pensez que c'était lié à, en tant qu'aide-soignante?
Ah oui, parce que bon, moi, quand je suis près de mes patients, je m'y mets à fond. Et souvent, des fois, on fait vite, et puis c'est quand même le patient, il paye. Donc avec ma collègue, je me rappelle, on faisait bien, on essayait de faire de notre mieux sans faire mal. Ça a dû affecter ma vie et me donner des maladies, en fait, des choses que je n'avais pas, la tension. Je dis, j'avais 20 tensions dans chaque bras. Pourtant, je ne suis pas stressée, je ne suis rien, mais voilà quoi. J'ai l'inconvénient du trajet, mais je ne vais pas aller au fourneau pour faire à manger, pour dire que je vais aller me coucher à 1h du matin. Je vais rentrer, me poser, me doucher après, et je vais me coucher, moi, à 1h du matin par contre. Le seul truc qui est dérangeant, c'est quand j'arrive et que le train, on dit qu'il y a des problèmes. Je sais que je vais arriver tard, je ne sais pas à quelle heure je vais partir, mais je sais que je vais arriver tard. Mais même si j'arrive tard, je sais que voilà, j'ai pas le repas à faire. Si j'ai fait la veille, il y en a déjà, ou si j'ai pas fait, c'est pas grave.
Et quand on est arrivé chez vous, vous avez dit que vous êtes quand même bien contente quand vous voyez votre porte d'entrée.
Oui, le soir quand j'arrive devant avec la galère des fois, où je suis toujours contente parce que je sais que je suis arrivée. toujours quand j'arrive, je suis contente. Donc déjà j'arrive à la gare, je suis déjà contente. Après je dis bon, c'est bon, je suis à la gare, donc je suis pas loin parce que je suis réveillée depuis 7h. Donc, arrivé à 22h ici, 22h10, 15, 20.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
Moi j'ai, on va dire, 55 km à faire, à parcourir le matin. Si je fais le transport en moto, je vais mettre généralement entre 45 et 50 minutes, c'est-à-dire ce qui est vraiment indiqué. Et parfois, 1h15, on arrive quand même à se faufiler en moto, mais quand c'est complètement bouché, forcément on ralentit pour s'adapter aux véhicules environnants qui sont quasiment à l'arrêt. Et automatiquement, ça nous fait perdre du temps sur le trajet. Ça demande beaucoup, beaucoup de vigilance. Il faut être tout le temps à l'affût, beaucoup plus encore qu'en voiture, parce qu'on n'a pas la carrosserie pour nous protéger. Et on est surtout moins visible aussi. Donc le stress du transport en lui-même, il est toujours présent, et il est même, même s'il dure moins longtemps, finalement en termes de nuisance, ça va être l'équivalent. Quoi.
Et en plus, vous êtes en horaire décalé.
Alors j'ai des horaires décalés. Enfin, quand je suis deux jours, je vais commencer à 7h30, mais j'essaie d'être sur place aux alentours de 7h20. Donc la fin de journée, c'est à 17h. Le matin, si j'y vais par exemple en voiture ou moto, il faut que je parte suffisamment tôt pour être certain de ne pas être trop ralenti sur mon trajet. Parce qu'il suffit qu'il y ait des accidents, des choses comme ça, des imprévus. Et là, fatalement, le temps de trajet il se retrouve fortement rallongé. Donc en prenant mes précautions et en partant suffisamment tôt, ça me permet d'arriver à l'heure, mais souvent j'arrive beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que je vais arriver à mon lieu de travail, finalement j'arrive parfois, enfin en tout cas quand je le fais en moto, je vais arriver à 7h-5 pour normalement une embauche à 7h30. Alors c'est là où c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que je suis obligé de partir suffisamment tôt pour pas arriver en retard. Mais en même temps, en procédant comme ça, j'arrive beaucoup plus tôt. Donc finalement, ce temps qui est pas réellement alloué au travail, c'est quand même du temps de perdu. Donc c'est cruel, mais
voilà. Du coup, on va peut-être aussi revenir sur votre travail. Donc vous êtes chef de chantier, c'est
oui,
ça ?
C'est ça.
Donc un travail physique
Qui demande aussi bien à être attentif et vigilant d'un point de vue sécurité, déjà, dans un premier temps. Et surtout aussi l'organisation des chantiers. Le fait d'être justement une bonne partie du temps dans les transports, c'est vrai que c'est assez pénalisant parce que malgré tout, même si je suis plutôt vaillant et j'arrive à être quand même frais en arrivant sur mon lieu de travail, c'est vrai qu'à la longue, c'est une contrainte assez complexe à gérer parce que sur l'ensemble des semaines, la fatigue s'accumule, ça devient vite compliqué, surtout au niveau du stress. Il est difficile parfois de concilier vie de famille et emploi parce que finalement je perds grosso modo tous les jours à peu près 3 heures minimum dans les transports, si c'est pas plus.
Vous avez décrit le trajet quand vous prenez votre moto.
Oui.
Et du coup quand c'est les transports en commun, c'est...
Le matin généralement je mets environ 1h40-45 porte à porte. Et le soir, pour le trajet retour, je vais mettre un peu plus parce que avec les embranchements, c'est-à-dire que quand on part d'une destination et qu'on se rend vers Paris, c'est souvent plus simple que l'inverse lorsque on a plusieurs destinations différentes sur une même ligne. Quand on est au bout d'une ligne, voilà, on n'a pas forcément tous les trains vers notre destination. Il suffit que j'arrive sur Châtelet où je fais mon changement, le train est passé, je suis obligé d'attendre une vingtaine de minutes. Environ quoi, le temps que le suivant arrive. Donc ça me rallonge. Alors ça me rallonge le temps et puis parfois ça me fait rater le bus aussi qui doit me ramener jusqu'à chez moi.
Est-ce que par exemple vous avez essayé quand vous avez choisi votre logement d'étudier les trajets pour pouvoir être. Ça puisse vous faciliter la tâche, après il y a votre compagne.
Oui voilà, en fait c'est surtout ça. J'ai rencontré ma compagne et elle habitait beaucoup plus loin. Encore, c'est-à-dire, enfin, par rapport à mon lieu de travail. Forcément, ça m'a rallongé considérablement mon temps de travail, mais c'est parce que de son côté, donc sa fille et elle sont respectivement, donc sa fille de son collège, elle est à 5 minutes à pied, et ma compagne, elle est à 5 minutes en voiture. Finalement, essayer de couper la poire en deux, est-ce que finalement ça va être réellement profitable pour la vie de famille ? Ça voudrait dire tout remettre en question, et c'est pas forcément évident comme ça.
Ouais, donc dans l'équilibre familial, cette question de trajet repose du coup sur vous.
Ouais, c'est ça. Bien, en plus, vu que je travaille de nuit, enfin j'ai des horaires parfois décalés, j'ai aussi des astreintes. Finalement, c'est vrai que ça me demande beaucoup d'investissement de temps, mais bon, ceci dit, j'ai aussi malgré tout des compensations après de récupération. Lié justement au fait de travailler de nuit, en horaire décalé, choses comme ça, où je peux enfin me reposer.
Et même quand on fait beaucoup de trajets comme ça, le week-end, du coup, est-ce qu'on a envie aussi de rebouger de...
Ah ouais, alors ça c'est vrai que ma compagne a son grand désespoir. J'ai tendance à être plutôt casanier du coup. Parce que à perdre 4 heures presque tous les jours dans les transports, c'est vrai que le week-end, je finis par être fatigué et j'avais vraiment envie de me poser. Et parfois, elle me dit, viens, on prend la voiture, on va en Normandie, ou on fait ceci. Et là, je me dis, attends.
Ouais.
Bon, je finis par le faire, mais c'est vrai que souvent, c'est pas sous la contrainte. Hein, mais c'est vrai que... Je suis pas non plus enthousiaste, ou en tout cas, je vais pas forcément moi, de moi-même, proposer. C'est-à-dire que c'est tellement éreintant que voilà, ça va me dire je vais aller à tel endroit et puis le dimanche revenir dans les embouteillages en sachant qu'après je vais enchaîner toute la semaine avec ces mêmes embouteillages. C'est vrai que, enfin, embouteillage ou en tout cas surpopulation, c'est vrai que ça fait pas rêver quoi. Entre les ruptures caténaires, les arbres qui tombent sur les voies, les accidents voyageurs, enfin bon. Ou même simplement des gens qui se battent parce que justement ils sont serrés comme des sardines et ça finit par faire monter la pression.
Ouais, il y a des tensions aussi dans le. Ouais.
Et les gens finissent par péter les plombs tout seuls. On arrive et on est déjà en train de râler parce que on a perdu. On arrive en retard déjà. On a pris les transports, on était dans des conditions pourries parce que serrés justement comme des sardines. Donc on attend déjà les trains, on est sur le quai, on voit qu'il y a. Il y a déjà le quai qui est plein à craquer et on se dit mais comment les gens vont faire pour monter. Et les gens se poussent, ils se tassent, puis au final on laisse passer un premier train parce qu'on se dit de toute façon j'arriverai pas à monter, le train suivant arrive et là les gens se bousculent, vous passent dessus et puis moi j'ai pas tendance à vouloir me friter dès le matin comme ça. Je suis plutôt zen, aller faire la guerre juste pour prendre l'espace d'un quart de mètre carré pour essayer de me glisser dans un RER blindé qui sent la sueur alors qu'il est 7h du matin, il n'y a rien de sexy quoi. Ça me donne pas envie du tout. Donc ouais, c'est. Alors du coup, c'est effectivement une source de stress parce qu'une fois arrivé sur le lieu de travail, on est déjà agacé.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
Hélène Nessy, urbaniste, enseignante-chercheur à l'université Paris-Nanterre, elle a coécrit en 2017 un article dans la revue Espacetemps.net « La mobilité périurbaine, le changement, c'est pour quand ?»
En France, on assiste, comme dans toutes les grandes villes européennes, au phénomène de métropolisation qui débute dans les années 60. L'urbanisme s'étale et les constructions apparaissent dans les zones plus rurales. Et donc, les habitants peuvent désormais habiter en périphérie et travailler sur d'autres sites. Donc, on assiste à ce moment-là à une dissociation spatiale entre l'emploi et le lieu de résidence. Évidemment, toutes les politiques du logement dans les années 70-80 ont largement aussi participé à cette périurbanisation pour permettre l'accession à la propriété individuelle.
Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de données sur les moyennes de trajet domicile-travail ?
La dernière enquête globale transport donc sur l'Île-de-France en 2010. Donc pourquoi je vous parle de l'Île-de-France ? Puisqu'effectivement, les villes qui vont avoir connu un fort phénomène de métropolisation vont être les plus sujettes à ces allongements de distance de transport et aussi de temps de déplacement. Donc en moyenne, on va être à 113 minutes de déplacement dans la journée pour les déplacements domicile-travail.
Est-ce que la variable, par exemple, genre ou catégorie socio-professionnelle, affine un petit peu ces données-là ?
Alors, tout à fait. Les femmes ont des déplacements un peu plus courts. Donc, 21% des femmes ont moins de 15 minutes contre 15% des hommes. Donc, effectivement, on comprend bien derrière, c'est souvent toute une organisation familiale qui repose encore sur la mère et qui s'occupe derrière de la logistique familiale d'aller chercher les enfants, faire les courses et cherchera souvent en priorité à se rapprocher du domicile. Les ouvriers, les professions intermédiaires sont exposés aux trajets les plus longs, les employés aux trajets les plus courts et les cadres sont dans une tranche intermédiaire. Bon, effectivement, on peut voir que les cadres ont plus de possibilités de choisir leur lieu de résidence, mais aussi, compte tenu de leur niveau de diplôme élevé, ont plus de choix aussi dans l'offre professionnelle.
Pour le coup, les métiers ouvriers vont par ailleurs être les métiers les plus usants physiquement.
C'est un type de métier, donc c'est le service à la personne, c'est de la manutention dans des supermarchés, de nuit en plus avec des horaires compliqués. L'intérim, si on prend l'ouvrier dans le BTP, lui va changer de chantier tous les 6 mois, 1 an. Alors là, pour le coup, eux, c'est changeant, voire plus. Enfin, c'est même pas à l'année. C'est-à-dire que dans l'année, ils vont déjà être sur plusieurs sites. Donc c'est très difficile de se projeter dans un choix résidentiel. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à une inégalité très forte qu'il peut y avoir avec le télétravail, qui est très inadapté à tous ces métiers que je viens d'évoquer. Et pareil, qui est encore adapté aux cadres ou aux employés plus. Donc là, on n'a pas trouvé. Et d'ailleurs, c'est dans les politiques de transport, on dit développer dans les plans de déplacement urbain, essayer de développer le télétravail. Mais en fait, ça touche qu'une un petit segment de la population.
Et par rapport à vos travaux, vous avez donc réalisé une série d'entretiens avec de nombreux habitants d'Île-de-France. Et vous les avez interrogés justement sur cet entretien. Trajet domicile-travail. Et qu'est-ce qui ressort de leur vécu de ce trajet ?
La fatigue est très souvent avancée. Sachant qu'effectivement, si le temps de déplacement est long, la personne va devoir se réveiller très tôt déjà, donc il y a de la fatigue de se réveiller tôt. Et ensuite, alors qu'elle part du travail et donc souvent se retrouve à devoir retravailler chez elle le soir puisqu'elle part tôt du travail, il y a une fatigue, une pression. Donc ça, ça peut être aussi bien en voiture que dans les transports collectifs. C'est pas propre au déplacement en voiture. Pas mal d'entretiens qui se finissent en larmes de personnes qui se rendent compte. En fait, elles passent 1h30, 2h par jour à se déplacer. Donc elles font le total, elles se rendent compte qu'elles mettent 7h. Dans les 5 jours de la semaine travaillée, elles se rendent compte que ça correspond à une journée de travail. Et donc là, elles finissent effectivement en pleurs en se disant « Mais en fait, tout ce temps perdu, elles aimeraient le réinvestir dans des activités soit personnelles, soit familiales. » Et là, on sent vraiment une pénibilité là, de ces déplacements très forts qui fait que les gens sont à bout. Souvent, effectivement, on arrive à la gare, mais on est encore à 15, 20 minutes du lieu de travail. Donc c'est toujours, en fait, c'est aussi ces ruptures de charge qui sont pesantes et fatigantes, c'est quand on a beaucoup de changements. Essentiellement, c'est le fait, c'est à l'heure de pointe, c'est le wagon qui est bondé et on est écrasé à la fenêtre. Donc là, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'une heure de transport, soit, mais c'est différent de le faire assis que de le faire debout, coincé entre 3 personnes.
Et est-ce que du coup, dans les entretiens, les personnes vous évoquent des stratégies pour pouvoir avoir leur place, essayer d'être le mieux possible dans les transports ?
Oui, ça, tout à fait. Donc, il y a pas mal de stratégies. Donc, il y a d'abord, sur le quai, on sait qu'il y a des emplacements où les wagons sont moins pleins. Ensuite, il y a clairement l'horaire. Donc, on sait qu'à 8h30, c'est le moment de rush. Il y a beaucoup de gens qui vont déposer leurs enfants. Et donc, à partir de 8h30 jusqu'à 9h, c'est l'horreur. Et en plus, c'est le moment où il y a le plus de problèmes de trafic. Donc, de partir tôt, ça, c'est souvent une stratégie avancée, mais donc ça rajoute à la fatigue. Alors, parfois, si, il y a des stratégies d'éviter ce créneau horaire. Ça peut être partir tôt ou partir tard aussi. Ça vaut aussi pour la voiture, d'éviter les heures de congestion. Comme on sait qu'on va passer beaucoup de temps dans les transports, on va s'équiper pour que ça soit le moins désagréable possible. Et on va essayer aussi de rentabiliser le temps. Donc effectivement, toutes les tablettes et téléphones ont largement participé à cette rentabilité du temps. Donc rentabilité, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que parfois c'est juste pour jouer, mais en tout cas, avoir la tête ailleurs. L'écoute de la radio, de la musique, ça c'est vraiment essayer de se mettre dans une bulle pour se protéger un peu, surtout là le matin quand il y a beaucoup de monde. Là, on voit des stratégies très différentes. Alors, effectivement, travailler dans le RER, c'est très compliqué. Il faut se mettre dans la situation. Donc, on se dit, de toute façon, on sera debout. Donc, on ne pourra pas forcément lire un livre parce qu'on va être trop... le livre trop collé au bout du nez. On ne pourra pas sortir grand-chose de son sac. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Donc là, l'autre fois, je faisais un entretien avec une étudiante qui me disait « Je lis mes cours, je les enregistre. Comme ça, pendant mes trajets, donc effectivement, elle fait 2 heures aller, 2 heures retour, je peux les écouter dans les transports. » Je lui dis « Ah ben, pourquoi vous ne les lisez pas directement ?» Effectivement, elle me dit « On est tellement serré que c'est compliqué de les sortir et de pouvoir... » Donc effectivement, il y a quand même pas mal de petites choses qui se mettent en place.
Est-ce que du coup, là, quelle réponse politique pourrait être apportée ? Parce qu'on a à la fois, d'un côté, plutôt des acteurs économiques sur la question des bassins d'emploi, où il y a beaucoup de déménagements d'entreprises, elles se regroupent, etc. Donc il y a aussi des entreprises qui déménagent, donc c'est compliqué pour les personnes de suivre, en fait, à chaque fois son entreprise. Et de l'autre, on a des acteurs publics sur la question des transports.
Donc aujourd'hui, c'est des questions importantes avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes, mais... On peut pointer des éléments assez critiques sur des politiques qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construit un quartier, une zone d'aménagement concerté, donc qu'on appelle ZAC, on va dire « Ah, ben on va faire de la mixité fonctionnelle », donc le grand slogan de la mixité fonctionnelle, on va mettre des logements, de l'habitation en se disant, et des commerces en se disant que les gens n'auront plus à se déplacer et donc on serait plus vertueux dans nos pratiques de déplacement, est quelque chose d'assez utopique et a été démontré dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches scientifiques et peu entendu, je pense, par les politiques et les élus. Pour quelles raisons ? C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, la situation économique et l'instabilité des emplois, de se dire que ça serait l'emploi qui serait le point de référence pour choisir son lieu de résidence, n'existe plus. Ça a été le cas dans les années 80, puisque l'emploi était relativement stable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ménage va chercher ? Il ira certainement dans le périurbain, parce que le foncier n'est pas très cher, il accède à un cadre de vie relativement agréable. Et de toute façon, aujourd'hui, en plus avec la biactivité des ménages, c'est très difficile de pouvoir se trouver un lieu qui va être pratique pour les deux du ménage. Donc souvent, il y a un actif qui va sacrifier un peu son temps de déplacement par rapport à l'autre. On va effectivement chercher à ce qu'il y en ait un qui soit favorisé et moins à une distance intermédiaire entre les deux. Donc effectivement, tous ces acteurs, enfin toutes ces dimensions, à la fois où est le lieu résidence, où sont les bassins d'emploi et quelle offre de transport on a, sont les éléments clés pour comprendre ce temps passé dans les déplacements.
Haute Urbain, c'est terminé pour ce mois-ci. On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.